France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je m'appelle Olivier Latrie, je suis né à Boulogne-sur-Mer en 1962 et je suis organiste.
Bonjour Olivier Latrie.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous accorder ce temps, cette rencontre où l'on apprend à mieux vous connaître, vous, le musicien, le pédagogue, l'organiste. Ensemble, nous allons regarder un peu derrière, devant et même peut-être sur les côtés, tenter de comprendre comment s'est construite votre personnalité artistique, pourquoi vous avez choisi l'orgue pour l'exprimer, peut-être d'ailleurs. Est-ce l'orgue qui vous a choisi, l'orgue? Cette extraordinaire machine sonore qui a la coquetterie comme délice et amour de changer de genre lorsqu'elle est au pluriel. Vos grandes orgues à vous, cher Olivier Latrie, ce sont notamment celles de Notre-Dame de Paris depuis 1985. Vous les partagez avec Philippe Lefebvre et Vincent Dubois depuis la nuit fatidique du 15 avril dernier. Vous êtes sans doute orphelin. Je me demandais, pour débuter cette rencontre, eh bien tout simplement comment vous vous sentez.
Je veux dire que c'est plus facile de ne pas penser à l'état de Notre-Dame maintenant, à l'état de l'orgue. J'ai la chance de faire beaucoup de concerts et d'être beaucoup à l'étranger, ou en France, mais en tout cas d'être beaucoup pas chez moi. Voilà. Ce qui me permet justement d'oublier un petit peu le marasme autour de Notre-Dame. Mais il y a toujours évidemment les personnes sur place qui me disent alors et l'état de l'orgue et ceci, etc. Et c'est légitime, évidemment. Mais à chaque fois, ça rume un petit peu le couteau dans la plaie, je veux dire. Puisqu'effectivement, c'est quand même une plaie ouverte, il faut le dire.
Et vous êtes donc, j'allais dire, sur d'autres grandes orgues à Paris. On sait qu'il y a peut-être Saint-Sulpice. Voilà, vous êtes à ce moment-là obligé de tourner ailleurs ou vous êtes d'une certaine façon au chômage technique?
En quelque sorte, c'est le chômage technique, puisque de toute façon, il y a des organistes partout dans les églises. Alors, il est vrai que on nous a demandé de jouer des offices diocésains, donc directement liés à Notre-Dame, dans certaines paroisses, d'abord Saint-Eustache, puis Saint-Sulpice, effectivement, qui est l'église qui permet d'accueillir le plus de monde à Paris. C'est la plus grande église de Paris. Mais il y a deux organistes là-bas, donc c'est normal qu'on leur demande à eux d'abord. Et puis maintenant, on joue, puisque la liturgie de la cathédrale a lieu à Saint-Germain-l'Auxerrois depuis le 1er septembre. On joue là de temps en temps et nous sommes maintenant les suppléants de l'organiste titulaire de Saint-Germain-l'Auxerrois, qui est Michael Mathès.
Alors cet orgue, vous allez le découvrir enfant, mais pas tout petit, je crois. Il y a une vie avant la découverte de l'orgue, Olivier Latrie. Si jamais on pense à l'orgue, on peut se dire, d'une certaine façon, peut y avoir peut-être, je me faisais ce parallèle avec les parfums qui ont une note de fond, une note de tête, selon les jeux que l'on tire. Quel serait le jeu qui irait le mieux à votre enfance?
Oh, ce serait un jeu fort, forcément, soit une trompette ou une chamade, ou une trompette en chamade, ce qui est encore mieux. Quand on a 12 ans et qu'on découvre l'orgue, ce qui attire toujours, c'est le fait que ce soit fort, vous vous rendez compte, la puissance qu'on peut générer comme ça, rien qu'avec quelques doigts, enfin, c'est incroyable. Et effectivement, oui, ce serait ça. sans hésiter.
Et le garçon que vous étiez, il était lui aussi assez trompette et chamade, haut en couleur, ou vous étiez plutôt réservé? Quel serait votre caractère si vous vous remettez un peu dans le temps, quand vous êtes vraiment petit?
Oui, j'étais plutôt réservé au moment où j'ai découvert l'orgue. Avant, peut-être pas vraiment. J'avais des parents qui m'adoraient, et j'adorais aussi d'ailleurs, et qui mettaient assez en avant, je veux dire, quand il y avait quelqu'un qui venait à la maison, « Allez, je joue quelque chose au piano, etc. » Enfin, j'étais quelque part valorisé. Donc, et quand j'ai découvert l'orgue, en fait, ce qui m'a plu, c'est la dualité entre le fait qu'on puisse jouer très fort, mais en même temps, on n'est pas vu. C'est quand même terriblement pervers comme instrument, vous vous rendez compte.
Et dans cette famille, vous êtes à Boulogne-sur-Mer, c'est
oui.
Ça, Pas-de-Calais.
Oui.
Vous avez des frères, des sœurs?
Oui, j'ai deux frères plus âgés, un de 14 ans plus vieux que moi et l'autre 8 ans plus vieux que moi.
Ah ouais, donc du coup, un grand espace. Vous êtes le petit dernier.
Voilà, c'est ça. Et ma mère disait avec humour qu'en fait, elle avait eu 3 enfants uniques.
Bah c'est bien, ça veut dire le temps pour chacun.
Exactement, c'est ça. Et on reviendra probablement là-dessus, puisque en fait, la découverte de la musique s'est faite aussi par mes frères et la découverte de l'orgue indirectement également.
Vos parents, que faisaient-ils ?
Mon père était agent d'assurance. Ma mère, sans emploi, mais en fait, elle avait de quoi s'occuper avec nous.
Avec 3 enfants uniques.
Voilà, c'est ça.
Et cette famille qui vit à Boulogne-sur-Mer, est-ce qu'elle est déjà environnée de musique ? Quelle est la place de la musique quand vous avez 5-6 ans ? Est-ce que vos frères, qui sont donc des frères très aînés, jouent d'instruments ?
Alors, mon père avait joué de la flûte quand il était enfant, ma mère rien du tout, mais on peut pas dire qu'ils étaient vraiment musiciens, pas du tout même. Par contre, ils étaient abonnés à la Guilde internationale du disque, et donc ils recevaient tous les mois, je crois, un disque 33 tours. Et il paraît que déjà quand j'étais petit, j'étais assis à côté de l'électrophone, regardant et le disque tourner, et écoutant évidemment des symphonies de Beethoven, de Schumann, enfin tout ce qui arrivait comme ça tous les mois. Ils étaient très ouverts pour tout, en fait. Je veux dire que, en y réfléchissant encore maintenant, ça, il y a quelques jours, je disais que c'était incroyable de voir que mon père avait une culture générale énorme, en fait, mais qui s'était faite toute seule, parce que bon, ils étaient allés jusqu'au certificat d'études, comme la plupart des gens à ce moment-là. Et puis après, il a beaucoup lu, il était curieux, et il lisait tout le temps tous les journaux, il découpait les articles qui l'intéressaient, classait dans certaines choses, comme ça. Donc en fait, on lui posait une question sur quelque chose, il avait forcément la réponse. Et en y repensant, vraiment, je me suis rendu compte qu'il m'avait appris énormément de choses, quoi.
Une forme de savoir encyclopédique, complètement en autodidacte. Donc ça veut dire une certaine gourmandise de la part de vos parents, un appétit de la vie, alors.
Exactement, c'est ça. Et puis, allié à ça, un optimisme absolument surdimensionné chez ma mère. Voilà, donc c'est une famille heureuse quand même.
Lorsque vous êtes enfant, est-ce que les familles du côté de votre père et de votre mère sont aussi du Pas-de-Calais ? Est-ce qu'il y avait des lieux de vacances ? Quels pourraient être aussi vos souvenirs si vous deviez nous la dessiner un peu comme ça ? On sent quelque chose de très joyeux à la maison.
Oui.
Et qu'est-ce qui s'y passe aussi ? Des souvenirs peut-être de campagne, de mer ?
Les vacances, c'était surtout en Bretagne, puisque en fait ma mère était originaire de Bretagne. Un petit village qui s'appelait Lecona d'Aulas, et même un lieu dit qui s'appelait Gorée à Roite. Là, on est vraiment dans le dans la Bretagne profonde. On allait là-bas tous les ans, et je veux dire, c'était fabuleux, parce qu'en fait, on baignait dans l'aspect folklorique de la Bretagne, et traditionnel, et du coup, mes frères, justement, ont toujours été très intéressés par ce répertoire breton, et ils ont appris la musique en autodidacte. D'abord avec le pipeau, évidemment, et puis après ça, la cornemuse, la bombarde, dans une petite maison comme on avait à Boulogne-sur-Mer, je veux dire, ça, c'était assez fort. Et en fait, mon grand frère, qui était justement autodidacte, m'a appris comment placer un accord de Do majeur au piano. Et à partir de là, j'ai trouvé le reste, mais c'est quand même lui qui m'a dit comment on mettait les doigts pour avoir un son harmonieux, quoi, sur un accord.
Ah oui, donc du coup, il y avait cette espèce de parrainage dans
c'est
la
ça,
musique.
Exactement.
Et tous ces sons-là, la cornemuse, la bombarde, ce sont des choses que vous allez retrouver plus tard à l'orgue, en fait.
Aussi, oui, c'est vrai, puisqu'il y a un jeu de bombarde à l'orgue. La première fois que j'ai joué de l'orgue, j'ai trouvé ce jeu, j'ai trouvé ça. Ah, je dis quand même, voilà.
C'est quoi, ce sont des bagades ou des choses comme ça
Oui, c'est ça. Et en fait, mes frères avaient justement créé un bagade à Boulogne-sur-Mer avec des amis, etc. Donc j'ai joué moi-même de la bombarde et un peu de cornemuse.
Ah, donc les premiers instruments auxquels vous vous frottez, Olivier Latry, quels sont-ils?
Je crois que j'ai essayé un peu tout, en fait. Flûte à bec, pipeau évidemment, mais flûte traversière, enfin je sais pas, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Bon, la bombarde, comme j'ai dit, le piano évidemment. J'avais un tout petit piano que mes parents m'avaient acheté quand j'avais 2 ans et je m'amusais à reproduire les chansons que j'entendais. Et j'avais appris la lettre à Lise là-dessus. C'était pas très facile. Hein.
Et, à demain?
Ah bah oui, bien sûr. Oui, mais sans savoir la clé de fa. Ce qui fait que la première fois que je suis arrivé en cours de piano, ma prof de piano a été absolument effarée. Elle a fait venir le directeur, les autres profs de piano, en disant « écoutez ça ». Donc j'ai rejoué la lettre à Alice. Et un des autres profs a dit « eh ben madame, je vous souhaite bien du courage ». Voilà. Elle a été fabuleuse, puisque en fait elle m'a pris en cours 2 fois par semaine, elle me prenait pendant les vacances, mais tout ça tout à fait généreusement, enfin je veux dire, il n'y avait pas de surplus financier ou quoi que ce soit. C'était vraiment incroyable, quoi. Si je ne l'avais pas eu, je ne ferais pas ce que je fais maintenant.
Vous aviez quel âge à ce moment-là? Ces premiers cours, c'est quel âge?
J'avais 6 ans.
Et qu'est-ce que vous aviez de particulier, vous pensez, à 6 ans, qui fait qu'un professeur a envie de s'investir?
Peut-être déceler effectivement que j'avais quelques possibilités qui permettaient d'aller un peu plus loin, je sais pas du tout. Bon, c'est vrai que avant ça, à l'école maternelle, justement, il y avait un piano et je m'amusais, que j'avais l'habitude à la maison, avec mon petit piano chromatique, à jouer les chansons d'enfants qu'on chantait tous à l'école. Et c'est la directrice de l'école maternelle qui a dit à mes parents, mais il faut absolument qu'ils fassent de la musique. Voilà, ça s'est fait comme ça. Sinon, effectivement, moi, j'aurais fait comme mes frères, j'aurais fait de la musique en autodidacte.
Quand vous êtes enfant, vous avez donc visiblement, Olivier Latry, aussi l'appétit de votre mère. Cette espèce de côté feu follet, l'envie, comme ce que vous disiez de votre père, et cette curiosité. Est-ce que ça touche d'autres arts ou c'était d'emblée très concerté, très concentré sur la musique?
Comme j'étais intéressé par la musique, ma mère, et mes parents d'ailleurs, m'emmenaient au concert régulièrement. De toute façon, il y avait à ce moment-là les JMF. Jeunesse musicale de France, et on était évidemment abonnés, on allait à tous les concerts, et puis dès qu'il y avait quelque chose, on y allait. Je veux dire, on n'hésitait pas, quoi, à sortir pour ce genre de choses. Mais j'aimais aussi d'autres choses, oui, dessiner beaucoup, les jeux de construction, ça m'a toujours beaucoup amusé. Lire pas trop. J'ai toujours été un peu solitaire de ce point de vue-là. J'avais peu d'amis puisque, en fait, le fait d'être dans un environnement où je voulais faire de la musique, je voulais faire des choses qui étaient finalement pas normales, conventionnelles vis-à-vis de mes camarades, bah, j'avais finalement peu d'amis proches. J'étais vu un petit peu comme une bête curieuse. Qu'est-ce qu'il fait? En plus de l'orgue, vous imaginez, après, c'est juste pas possible quand on est au collège, de l'orgue. Non, non. Éventuellement, ça aurait été de la guitare ou de la guitare électrique, encore mieux, mais de l'orgue. Par contre, ça a changé quand je suis allé au lycée. Et je me souviens très nettement, un jour, travailler, puisque je travaillais globalement 2 heures de piano, 2 heures d'orgue par jour, en plus des devoirs, c'était quand même assez lourd. Je travaillais dans l'église, j'avais laissé la porte ouverte et de la tribune. Je venais de jouer Dieu parmi nous de Messiaen, qui est quand même une pièce, bon, j'avais dû avoir 14 ans, je sais pas, une pièce qui est quand même assez représentative du langage de Messiaen, mais aussi avec les rythmes, etc. Vous voyez, donc là aussi, c'est fort. Et du coup, ça pouvait intéresser des jeunes comme moi. Et la porte s'ouvre et puis il y a un gars que je connaissais pas, et à peu près mon âge, qui me dit « C'est super ce que tu joues là, tu peux me le refaire ?» Donc je lui rejoue la pièce, il était tout content, je lui montrais un petit peu comment fonctionnait l'orgue et tout, et je savais pas qu'il était dans le même lycée que moi. Et en fait, le lendemain, j'arrive à l'école et puis je vois quelqu'un qui me dit « Olivier !» et puis qui me fait signe, et puis c'était lui en fait. Donc en fait, il a amené des amis après pour entendre l'orgue. Et je trouve fabuleux d'avoir aussi cette possibilité de, quelque part, d'être missionnaire de la musique, missionnaire de l'orgue, vous voyez ce que je veux dire ? C'est quand même important, en fait. Quand on se sent à cet âge investi d'une mission, on n'arrête plus, hein.
France Musique, les grands entretiens d'Olivier Latry.
Avant cette découverte de l'orgue, donc c'est le piano, Olivier Latry, c'est l'instrument, je pense, que vous allez le plus développer, même si vous avez touché un peu à tout, à coups de flûte, de bombarde, etc. Sur le piano, vous concentrez vos efforts avec ce premier professeur. Ça se passe au conservatoire, ça se passe en cours privé. Est-ce que c'est l'occasion ? Pas à l'école encore, on l'entend, mais aussi quand souvent on rentre au conservatoire, là pour le coup, de se faire des copains, de faire de la musique de chambre, ou bien c'était en cours privé, et donc ça accusait cette solitude.
Non, c'était au conservatoire, et je dois dire que d'ailleurs le conservatoire de Boulogne, je me souviens, la première fois que j'y suis allé, c'était marqué « succursale du conservatoire de Paris », c'était quand même important. Il y avait beaucoup ça en province à l'époque. Et je veux dire que j'ai vraiment eu la chance de tomber sur les bons professeurs. En fait, bon, cette dame, Madame Pocher, qui était vraiment extraordinaire. Je dois dire aussi le directeur du conservatoire, Jacques Verrier, qui était aussi compositeur, qui était mon professeur d'harmonie, qui avaient tous vraiment une grande exigence. Ils ne laissaient rien passer. Et c'était fabuleux, justement, parce que ça me permettait de, quand on a 8, 10 ans, 12, voire 14, on n'a quand même pas forcément envie de faire les choses au mieux, quoi. Donc, voilà. Les cours de piano, c'était globalement une semaine, je travaillais pas, donc je m'attirais les foudres de Madame Pocher. Donc, du coup, la semaine après, je mettais un peu plus de pression, donc je travaillais, etc. J'arrivais au cours en ayant mal au ventre tellement j'avais peur de ce qui allait se passer. Elle était à moitié contente, donc ça allait. Donc, du coup, la semaine après, je travaillais pas. Enfin, bon, c'était comme ça. En dents de scie, ça a été comme ça pendant des années. Mais sinon, à côté de ça, le fait d'avoir le piano, au piano au départ, on ne faisait pas de musique de chambre. C'est venu beaucoup plus tard, c'est venu quand j'avais, je ne sais pas, 15-16 ans, et que j'avais le niveau de le faire. Mais sinon, ce n'était pas une pratique naturelle à ce moment-là. On travaillait le piano, on faisait du piano, c'était tout, quoi. Donc je n'avais pas plus d'amis que ça. Et j'avais le même problème aussi au conservatoire que ce que j'avais à l'école. C'était un tout petit peu différent, parce qu'à l'école, j'avais des gens de mon âge qui ne comprenaient pas ce que je faisais. Au conservatoire, j'avais des gens qui comprenaient ce que je faisais, mais qui n'étaient pas de mon âge, puisqu'en fait, je devais avoir, je sais pas, 8-10 ans, et eux en avaient au moins 14-15, parce que dans les mêmes classes, enfin, je veux dire, j'allais très vite, si vous voulez, sur le développement de l'oreille, du solfège, de ceci, de cela, et donc j'avais pas trop de rapport non plus avec eux. Voilà, donc toujours une vie de solitaire, d'ermite.
Vous vous en portiez pas trop mal ?
Oh non, ça a été, puisqu'il y avait le cocon familial qui était là, donc tout allait bien. Thank you.
au piano, vous aviez cette liberté quand vous étiez enfant de vous aventurer aussi sur le clavier, d'improviser
J'ai jamais vraiment beaucoup improvisé à ce moment-là, mais par contre je déchiffrais énormément.
Et dans cette vie de concert, est-ce qu'il y a des moments dont vous vous souvenez, marquants ?
Je me souviens de certains concerts qui m'ont effectivement plus marqué, notamment Yuri Bukov, pianiste. Et je veux dire que, en fait, ça m'avait marqué parce que, en fait, il avait une certaine présence, mais une présence froide. Je veux dire que j'avais vu des musiciens qui étaient très proches de leur instrument, etc. Mais je trouve qu'il y avait une grandeur dans sa manière d'être. Et ça m'a toujours impressionné. Et je veux dire que ça m'a, je le ressens encore, je le vois encore maintenant, quoi. Et je veux dire que quand je suis à l'orgue, je vois des amis ou des collègues ou d'autres, de certains organismes dans certains pays qui bougent énormément. Et je me dis, mais pourquoi ils font ça? Il n'y a pas besoin. En fait, j'avais l'impression qu'il concentrait totalement son énergie corporelle sur son jeu. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, que j'essaye encore de reproduire aujourd'hui, tellement ça m'a marqué à ce moment-là. Alors Yuri Bukov, je me souviens de Michael Rudy aussi, où ma prof de piano, qui était toujours elle était assise pas très loin de moi, était toujours extrêmement critique sur tout ce qu'elle entendait, etc. C'était jamais assez bien pour elle. Elle avait parfois raison, je veux dire. Elle était mais dithyrambique, c'était absolument incroyable. Je l'ai jamais vue comme ça, debout, à applaudir, en criant bravo. Enfin, c'était comme l'ensemble de la salle d'ailleurs. J'étais étonné d'entendre ce que j'ai entendu. Je me souviens de ça, je me souviens de concerts d'orchestre, puisqu'il y avait aussi l'orchestre de Lille, qui était un orchestre itinérant pour la plupart du temps, qui venait justement au théâtre de Boulogne régulièrement. J'ai entendu là les grandes pièces de Stravinsky, j'ai entendu la première symphonie du Tilleul, enfin des choses... Ça marque, effectivement. Quand on a 15-16 ans, ça marque, oui. Et puis évidemment, les concerts d'orgue, puisqu'il y avait à Boulogne un instrument qui a été inauguré en 1975. J'avais commencé l'orgue en 1974. Et il se trouve que l'organiste était mon premier professeur d'orgue, l'abbé Brobillon. On avait accès à cet orgue, évidemment, et il y avait beaucoup de concerts. Et j'ai entendu là-bas Pierre Cochereau, Marie-Claire Alain, Philippe Lefebvre, Gaston Litaise. Et je veux dire que Gaston Litaise, quand je l'ai entendu, je me suis dit, mais je veux aller travailler avec ce monsieur, quoi.
C'est sur cette tierce entaille, extraite de la messe à l'usage des paroisses de Couperin par Gaston Litaise, que se referme le premier épisode des Grands Entretiens avec Olivier Latrie. Réalisation Christine Amado, prise de son Marie Le Peintre, mixage Valérie Lavalard, attachée de production Flora Sternadel. Demain, même heure, deuxième épisode de ce portrait. Les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.